J'aimerais, pour commencer, m'adresser à une ou plusieurs personnes et dire cette parole. N'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'il peut avoir autour, quelles que soient les choses et peut-être parfois les vagues aussi qui envahissent, ne lâche pas la main de Dieu. N'abandonne pas sa main aujourd'hui. On va lire un texte. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et j'aimerais particulièrement m'arrêter ce matin sur le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà, c'est les paroles de Paul. Et je crois qu'elles peuvent encore nous parler ce matin. Je crois que c'est encore une parole pour nos vies. On voit que Paul a vécu et il fait une sorte de bilan. Un bilan de sa vie et un bilan de où il est arrivé, un constat. Et il arrive à ce constat en disant « J'ai achevé la course ». J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Paul, au bout de sa vie, va avoir une parole qui nous encourage. C'est possible d'arriver au bout. C'est possible d'arriver à la fin de sa vie et de dire « j'ai gardé la foi ». De dire j'ai combattu le bon combat, je suis arrivé au bout de la course avec Dieu dans ma vie. C'est possible. Et c'est une parole pour nous encore ce matin. Jésus peut nous aider, il peut nous accompagner. Et je crois qu'à la fin de notre vie, et j'espère en tout cas le dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je vais m'arrêter sur ce terme, j'ai gardé la foi. Qu'est-ce que c'est garder la foi? Garder la foi. Si on a gardé la foi, ça veut dire qu'on peut la perdre. Si on a gardé la foi, ça veut dire qu'on peut s'égarer sur le chemin. Et j'aimerais voir avec vous un peu l'accomplissement de la vie de Paul, mais aussi ce qu'il a vécu avant. Comment il en est arrivé là? Comment il en est arrivé à dire « j'ai gardé la foi » Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pour comprendre l'ampleur de ses paroles, pour comprendre à quel point il est en train de dire « mais j'ai tout achevé ». On a besoin de regarder sa vie. Alors on va... pas regarder toute sa vie, sinon on en a pour toute une semaine, je pense. Mais on va regarder quelques passages dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Pour commencer, j'aimerais donner une sorte de chapitre. Paul le persécuteur racheté. Paul le persécuteur racheté. Paul est né juif et romain. Il est né dans la religion juive. Et même, il dira qu'il était dans la secte la plus rigide du judaïsme. Il va devenir l'homme qui persécute l'Église de Christ. Vous savez, il y en a beaucoup d'hommes qui persécutent l'Église de Christ. Mais un homme comme celui-là, il n'y en a peut-être pas eu beaucoup sur la terre. Cet homme, quand il entendait parler de Jésus, il prenait ses gens et il les envoyait en prison. Il les fouettait, il les faisait blasphémer. Un homme dur, un homme rigide. Il va devenir le persécuteur de l'Église. Et tout le monde a peur de lui. La Bible nous dit qu'il respire la menace et le meurtre. Ce n'est pas trop engageant, La menace et le meurtre. Ça ne donne pas trop envie de l'inviter à manger, je pense, chez soi. Quelqu'un qui respire la menace et le meurtre, qui sent la violence quand on passe à côté, on sent la violence dans son cœur, ça ne donne pas envie de l'inviter, Ce n'est pas trop engageant. Il va raconter un jour tout ce qui lui est arrivé. On va le lire ensemble dans Actes 26. Actes 26, verset 9. Paul est devant le roi Agrippa et il va raconter son témoignage. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. » On voit cet homme qui est là, qui vit une vie de violence. Et ça peut nous faire penser un peu à ce que nous étions avant de rencontrer Christ. Persécuteur de la foi ? Peut-être pas. Persécuteur de chrétiens, peut-être pas, mais en tout cas éloigné de Dieu. En tout cas, séparé de la grâce de Dieu. Et cet homme est là, plein de violence, plein de colère. Jésus va venir, il va le toucher. Il est en train de raconter, et quelle précision dans ses propos. Quelle précision dans ce qu'il dit. On voit que cette description est atroce, mais Paul s'en rappelle. Il s'en rappelle. La première chose que l'on peut dire de Paul ce matin, il n'a pas oublié qui il était avant de rencontrer Jésus. Et encore moins sa rencontre avec son Sauveur. Vous avez vu ce qu'on a lu, mais on aurait pu continuer. On voit Paul qui va vivre un moment particulier. Il va vivre sa rencontre avec Jésus. Cette lumière qui vient, il tombe et il se retrouve à genoux là devant Dieu, devant le Sauveur. Il va abandonner sa vie à Dieu. Quelle rencontre! Quel événement fabuleux! Un homme a dit un jour, pour ne pas abandonner la main de Dieu et faire naufrage dans la foi le jour où tout va mal, il faut que soit gravé dans nos cœurs notre rencontre avec notre Sauveur et notre appel. Et notre appel. Peut-être la première chose qu'on peut ressortir de la vie de Paul, première chose qu'on peut ressortir de ce qu'on lit sur sa vie. Comment a-t-il gardé la foi ? Comment est-il allé si loin ? Parce qu'il se rappelle sa condition avant de rencontrer Jésus, sa condition de pécheur, sa condition d'homme mauvais, loin de Dieu, voué à la mort, voué à l'enfer. Il se rappelle qui il est et il se rappelle surtout sa rencontre avec Dieu. Qui s'en rappelle ? Qui se rappelle de sa rencontre avec Dieu ? Amen. Beaucoup s'en rappellent. C'est important que ces choses soient gravées dans nos cœurs. Parce qu'on vit des moments durs et on en a parlé bien sûr avec les événements de ces derniers jours, mais aussi au quotidien dans nos vies. La maladie qui frappe, la dépression, la douleur, la difficulté familiale, toutes sortes de choses qui peuvent nous envahir et qui peut faire que notre vie, même en tant que chrétien, peut être parfois difficile. Qu'on peut se dire, mais je ne sais plus où je vais, je ne sais plus quoi faire. Et dans ces moments-là, si notre rencontre avec notre Sauveur n'est pas gravée dans notre cœur, si cette rencontre fabuleuse, ce moment où on est sorti du péché n'est pas gravé dans nos cœurs, comment s'en sortir ? Comment sortir de là ? Mes frères et sœurs, on a besoin de ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. J'aimerais m'adresser à quelqu'un cet après-midi, ce matin. Peut-être tu te dis, mais j'ai envie d'abandonner. C'est trop dur. Je ne sais pas quoi faire. Les choses viennent et m'assaillent et je vais abandonner la voie de Dieu. Rappelle-toi ta condition avant de le rencontrer. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi que tu étais dans le malheur, que ton cœur était vide, qu'il était dans la peine. Rappelle-toi, peut-être pas les désirs charnels. Quand on dit de se rappeler, c'est pas se rappeler en, en, en laissant le passé prendre le devant, en laissant le passé prendre l'acte sur nos vies. Paul dira d'ailleurs, aussi dans ses textes, il dira, mais ne regardant plus ce qui est en arrière, laissant ce qui est en arrière, mais regardant ce qui est en avant, je marche. Et il ne faut pas que le passé prenne le dessus sur nos vies. Il ne faut pas que toutes ces choses qu'on a vécues prennent le dessus et nous empêchent de marcher au quotidien. Ce n'est pas ça. Mais quand Paul dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat », il peut le dire parce qu'il s'est rappelé, parce qu'il sait ce que Jésus a fait pour lui, parce qu'il sait sa condition de pécheur et sa condition de racheté. Paul n'a jamais oublié comment le Seigneur l'a sorti de la boue du péché. Te rappelles-tu? Est-ce que c'est gravé en toi? C'est la question que j'aimerais te poser ce matin. Te rappelles-tu? Ou alors, laisse à ton esprit revenir l'amour de Jésus, la compassion, la grâce. Ce moment où peut-être c'est humiliant, où peut-être on s'est soumis à Dieu. Cette rencontre. Je me rappellerai toujours de cette rencontre. Rencontre avec Jésus. C'était un moment où j'étais vraiment dans la peine. Un moment où j'étais dans la douleur, dans la souffrance, et où toutes les choses étaient sur moi. Et je me disais, mais je ne peux plus vivre. Je ne peux plus. Et là, Jésus va toucher mon cœur. J'ai tombé à genoux dans ma chambre. Le Seigneur va toucher mon cœur, il va changer ma vie. Et ce moment sera gravé à tout jamais dans mon cœur. Et si tu ne l'as pas rencontré, viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est un moment fabuleux, la rencontre avec Dieu. C'est un moment essentiel pour ta vie. Viens à Jésus. Mais si tu l'as rencontré, rappelle-toi. Rappelle-toi ses paroles. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'a fait la longévité de Paul, c'est que chaque jour, il a déposé au pied de Jésus ses fardeaux. Il a déposé ses peines. Mais il n'a pas oublié qui il était. Il n'a pas oublié ce que Jésus a fait pour lui. On va aller un peu plus loin. J'aimerais vous parler de Paul le prédicateur. On connaît tous Paul le prédicateur. Prédicateur des païens. Le pasteur des païens, celui qui a vécu un réveil mondial, c'est vrai. Hein? Paul est celui qui est allé dans tellement de lieux et qui a vécu un réveil. Et on va lire quelques textes où Paul a vu la grandeur de Dieu dans sa vie. Il a vu les miracles, toujours dans les actes. Acte 13. On va lire plusieurs textes à la suite. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, qui est Paul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition en cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Chapitre 14, verset 1. À Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Amen. On va aller au verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. Amen. On va voir un dernier texte dans chapitre 16, au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ça, c'est peut-être 1% de ce que Paul a vécu. 1% peut-être. Paul a vécu des choses extraordinaires au cours de ses 3 voyages missionnaires dans tout le monde. Et il va proclamer la bonne nouvelle, il va proclamer la guérison, il va proclamer la transformation des vies, il va proclamer la délivrance et il va vivre la délivrance. Paul était rempli du Saint-Esprit et faisait beaucoup de miracles. On voit à un moment que Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Amen. Amen. Mais, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me surprend quand même, des choses comme ça. Et Paul vit des choses extraordinaires. Paul est en train de vivre des miracles, il est en train de vivre une vie mais qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Paul vit une vie extraordinaire. Beaucoup d'hommes ont vécu une vie extraordinaire. On pourrait en citer ce matin. On pourrait citer George Mueller, l'homme qui a eu 50 000 exaucements de prières. 50 000 exaucements de prières. On pourrait parler de Finney, celui qui a vécu le réveil en Amérique. Et ils ont fait des recherches et ils pensent qu'il y a plus d'un million de personnes qui s'est converties à sa prédication. Ça, si c'est pas fabuleux. Douglas Scott, bien sûr, qui a réveillé notre pays. Celui qui a amené le réveil au milieu de nous. On pourrait aussi parler de David Wilkerson, son travail dans les cités, les choses. Mais c'est tous des hommes où on se dit, mais j'aimerais être comme eux. J'aimerais vivre ce qu'ils vivent. J'aimerais voir la grandeur de Dieu comme ils la voient. Beaucoup de femmes et d'hommes ont vécu une vie hors du commun avec Dieu. Et Paul l'a vécu, il a été un instrument fabuleux. Ce sont des exemples pour nous. Mais on pourrait se dire, en lisant cela, en lisant ces textes, on pourrait se dire, mais c'est facile pour Paul. C'est facile de dire, mais j'ai combattu le bon combat. C'est facile de dire, mais j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En voyant autant de miracles, en voyant autant de choses dans nos vies, comment perdre la foi? Comment ne pas achever la course quand Jésus fait des miracles avec nous? Comment ne pas achever la course? On pourrait dire, mais Paul a été privilégié. Ces hommes ont été privilégiés. Ces femmes ont été privilégiées. Ils ont vécu des choses qu'on ne vit pas nous. Et c'est facile de nous dire, mais il faut garder la foi. Mais je ne le vis pas. On oublie peut-être que Paul a vécu des choses extraordinaires. Mais qu'à côté, il y a eu aussi des gros sacrifices. Il y a eu aussi une grande responsabilité. Et même de grandes souffrances. On aime bien regarder les hommes de Dieu en se disant, mais waouh, c'est magnifique ce qu'ils vivent, je veux faire pareil. Mais ce qu'on sait pas souvent, c'est que derrière cela, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de responsabilités, beaucoup de sacrifices. C'est ça la vie forte avec Dieu. C'est ça la vie extraordinaire. Alors, j'aimerais maintenant donner encore un chapitre. Paul le persécuté. Paul le persécuté. En reprenant les mêmes textes, on va aller à Actes 14. On va reprendre les mêmes textes qu'on a lus. Actes 14, verset 2. On voit que beaucoup, une grande multitude, crurent en Jésus. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il le fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lystre, de Derbe et dans la contrée d'alentour. Paul, où des âmes, des multitudes sont en train de rencontrer le Seigneur, et il va être lapidé. On voit que ces hommes vont vouloir le lapider, vont vouloir le violenter. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Dieu qui agit, qui fait des miracles et qui laisse faire. Là, ils vont se réfugier. Mais on va aller au verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, de la pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine, écoutez bien, à peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. C'est moins engageant d'un coup, hein. Ça donne moins envie, hein. On aime bien les miracles, on aime bien la grandeur de Dieu, on a envie de voir des choses extraordinaires. Mais ça, on a moins envie, hein. On a moins envie. Paul, ce grand homme, cet homme inspiré de Dieu, va être lapidé au point qu'ils vont le laisser comme mort, pensant qu'il est mort, que c'est fini pour lui. J'aimerais lire avec vous un texte. Parce que Paul va faire le point de ses victoires, mais il va faire le point de ses souffrances aussi. Je le lis pour vous, 2 Corinthiens 11. « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. » Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà, ça met un coup, là. Là, ça met un coup. Paul, qui a vécu tant de miracles, va dire, mais j'ai souffert plus que beaucoup. J'ai vécu des moments très durs. Une question se pose. Une question vient à mon cœur. Comment Paul n'a pas abandonné la voie de Dieu ? Quand je vois cette liste, je me dis, mais je n'ai pas vécu 1% de ce que Paul a vécu. Je n'ai pas vécu le centième, je n'ai rien vécu par rapport à Paul. Autant de souffrances, autant de moments difficiles. Comment Paul n'a pas abandonné la voie de Dieu? Comment il n'a pas abandonné la main de Dieu alors qu'il a vécu des choses atroces? Comment cela se fait-il? Personne n'a dit que c'était facile d'être chrétien. Personne n'a dit que c'était facile de donner sa vie à Dieu et de suivre Dieu, de le servir. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est encore plus dur d'être sans Dieu. C'est encore plus dur d'être loin de lui. J'aimerais encore parler à votre cœur. Encore vous dire, mais si vous êtes un peu comme Paul, que vous avez vécu des moments difficiles et vous vous dites, mais j'ai plus goût à la vie. J'ai plus goût à venir à l'église. J'ai plus goût à venir louer le Seigneur. J'ai envie d'arrêter, de faire ma vie. Dis-toi que c'est plus dur d'être loin de Dieu que d'être près de lui, même dans la souffrance. Ça, Paul l'avait compris. Mais Paul n'a jamais été abandonné par le Seigneur. Et lui n'a jamais lâché sa main. Mais à un moment, il va quand même se demander pourquoi, parce qu'il va dire qu'il y a une écharpe dans sa chair. Une écharpe dans sa chair. Il va demander au Seigneur de l'enlever plusieurs fois. Et Dieu va lui répondre une parole. Une parole qui nous interpelle encore ce matin. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la souffrance, vous êtes là en train de vivre des moments durs et quelqu'un vient vous voir et dit « Ouais, la grâce de Dieu, ça suffit. Ça suffit pour toi. C'est pas grave. » Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit. » Mais quelle est cette parole? Que veut dire cela? « Ma grâce te suffit. » C'est pas que Dieu prend plaisir, hein. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir à la souffrance, hein, à la souffrance de Paul, que Dieu prend plaisir à le voir dans l'épreuve. Mais il remet Paul dans le contexte. Il remet Paul qui est là en train de demander d'enlever cette douleur, d'enlever cette chose qui le tient. Et il remet Paul devant sa grâce. Il remet Paul devant la grâce du Sauveur. Lui qui est si faible, il va dire, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il dira même qu'il se glorifiera de sa faiblesse. Combien cette parole est encore pour nos vies, pour nos cœurs ce matin. Il a compris ce jour que la grâce de Dieu est plus grande. Même que toutes les souffrances qu'on peut vivre au monde, même que toutes les souffrances qui viennent dans nos vies, la grâce de Dieu est plus grande. Et devant la grâce de la croix, devant ce que Jésus a fait pour nos vies, ce qu'il a souffert, mais comment se dire, mais je veux l'abandonner, je ne veux plus vivre pour lui? Comment se dire cela? Devant une grâce si grande d'un Sauveur, de Dieu fait homme, qui vient donner sa vie pour toi et moi. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à ne pas abandonner la main de Dieu ce matin. Parce que la grâce de Dieu est plus grande que tout ce que tu peux vivre. Oui, c'est des moments difficiles. Mais Jésus est là. Jésus est là. La seule solution qui vient à toi, c'est de t'accrocher encore plus à sa main. Pas d'abandonner, ce n'est pas une solution. Et pour reprendre un peu ce qu'on a dit, peut-être tu as oublié comme Démas pour l'amour du siècle présent. Tu as oublié ta condition quand tu étais dans ce siècle. Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a sorti. Peut-être à cause des souffrances qui sont trop fortes, trop dures. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es tout seul. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Jésus t'a abandonné. Non, il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. C'est faux. Pourquoi ? Parce que s'il t'a abandonné aujourd'hui, que voudrait dire la croix? Que voudrait dire la croix? Si c'est pour un jour t'abandonner, pour lâcher ta main, que veut dire la croix? Que veut dire Jésus qui vient et qui souffre? À la 9e heure, il va dire une phrase qui est pour nous ce matin, « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'était ce que je devais vivre. Ça, c'était ce que tu devais vivre. Mais Jésus l'a vécu à ta place. Au travers de ça, au travers de Jésus sur la croix, abandonné du Père, qui a pris ton péché, il est en train de te dire, mais j'ai pris l'abandon, j'ai pris la séparation avec Dieu à ta place. Ne crois pas que Dieu t'abandonnera. Il ne lâche jamais ses enfants. Il ne lâche jamais la main de celui qu'il aime. Jésus l'a vécu à ta place. Et rien ne peut faire obstacle à l'amour de Dieu. J'aimerais lire un dernier texte avant de finir avec vous. Dans Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. On va le lire ensemble. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une promesse pour nous ce matin. Rien ni personne ne pourra nous séparer de la main de Dieu. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors compte sur lui ce matin. Je t'en supplie. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas ton Sauveur. Parce que le seul qui a le pouvoir de s'éloigner de Dieu, c'est toi. Le seul qui a le pouvoir, c'est toi. Viens à Jésus. Il t'aime. Il a des projets de paix. On a entendu tout à l'heure. C'est lui qui donne la paix. Et même dans les moments difficiles, c'est lui qui donne la paix. Confie-toi en Jésus. Retourne-toi dans ce chemin pour te séparer de son amour. Retourne-toi et retourne dans ses bras. C'est là ton refuge. C'est là ta place. Tu es enfant de Dieu. Viens à lui encore ce matin. On va prier. Et pendant que nous prions, peut-être dans votre cœur, vous avez ce besoin de retourner à l'amour de Jésus. Peut-être il est venu à votre pensée ce projet fou d'abandonner sa main. Pendant qu'on prie, tous ensemble, toute l'Église, pendant que toute l'Église prie, retourne à Jésus. Dis à Jésus que tu veux retourner dans sa main, dans ses bras, que tu veux lui faire confiance, que tu lui confies encore ta vie. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, parce que tu es là et tu veilles, Seigneur, et ta grâce est si grande à nos yeux. Ta grâce est au-dessus de ce qu'on aurait pu espérer. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas abandonner tes voies. Nous ne voulons pas, Seigneur, abandonner ton chemin, même si les événements viennent et veulent nous empêcher de venir à toi, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là, que rien ni personne ne pourra nous enlever de ta main, ne pourra nous enlever de ton amour, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour mon frère, ma sœur qui est là, et qui a peut-être dans son cœur ce projet. Je te prie de le ramener à la raison, de la ramener à la raison, de le ramener à toi, Seigneur. Qu'il découvre encore cette paix et qu'il puisse se confier en toi dans sa douleur. Et je sais que tu vas le remplir de ta paix, le remplir de ton amour, de ta joie. Merci pour ta grâce et merci pour ce moment encore mis à part pour toi. Chaque moment en ta présence, Seigneur mon Dieu, est une joie. Chaque moment en ta présence est une grâce. Alors je te loue, je t'adore, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin, Jésus. Amen.